Anna Ferradio.
Il est 7h, bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous comme chaque matin. Nous sommes le vendredi 6 septembre 2024, 336e jour de guerre en Israël. On fait le point, il y a toujours 101 otages dans la bande de Gaza.
Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem.
Et à Jérusalem, nous sommes en direct ce matin avec notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier, Boker Tov. Et on va commencer par cette terreur psychologique, hein, un film où l'on peut voir Hersh Goldberg-Polin, ancien otage, une vidéo qui a été publiée cette nuit par le Hamas. Hein.
En effet, Ilana, la famille de Hersh Goldberg-Polin, qui a été assassinée avec 5 autres otages il y a environ une semaine par le Hamas, a autorisé la diffusion d'une vidéo de propagande psychologique le concernant et qui a été donc publiée hier et par l'organisation terroriste. Dans la vidéo, Hersh s'adresse à sa famille, maman, papa, Libby, Orly, je vous aime, vous me manquez, je pense chaque jour à vous, je sais que vous faites tout pour me ramener à la maison, dit-il dans cette vidéo. Le moment où la vidéo a été filmée reste encore incertain. Elle est manifestement coupée et montée. Et il est probable que les propos de Hersh lui aient été dictés. Ses parents, Rachel et John, ont déclaré aux médias américains « Nous sommes en pleine Shiva, la période de deuil juive. Après avoir enterré notre fils Hersh lundi, cette vidéo doit être un signal d'alarme pour le monde, pour agir immédiatement et pour libérer les 101 otages restants avant qu'il ne soit trop tard. Aucune famille ne devrait subir ce que nous avons traversé. » ont déclaré les parents de Hersh.
Et puis cette nuit, le Premier ministre israélien a réuni les principaux responsables sécuritaires.
En effet, le Premier ministre a réuni les responsables de Tsahal et du Shabak pour débattre des tensions autour des négociations pour la libération des otages, négociations qui stagnent en raison de désaccords sur les conditions de libération des prisonniers. Les termes exacts de l'accord, il a été aussi question du front nord où Tsahal se prépare visiblement à intensifier les combats.
Et tout cela se déroule dans un contexte de tensions croissantes avec l'Égypte, Olivier.
En effet, les relations entre Israël et l'Égypte se sont dégradées après des déclarations du Premier ministre israélien Netanyahou concernant l'axe de Philadelphie qui ont été perçues comme une remise en question de la souveraineté égyptienne. Récente visite aussi du chef d'état-major égyptien à Gaza a également contribué à accroître ces tensions. Cela complique les efforts diplomatiques alors que l'Égypte joue un rôle important dans la médiation entre Israël et le Hamas pour la libération des otages.
La Maison Blanche tient le Hamas en tout cas pour responsable de l'échec des négociations concernant la libération des captifs.
Oui, c'est John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, qui a affirmé que le Hamas demeure le principal obstacle à un cessez-le-feu, rappelant que le groupe terroriste est responsable de la prise des otages. Il a aussi mentionné que l'exécution récente de 6 otages a compliqué les négociations, bien qu'il ait évité de critiquer directement Netanyahou. Kirby a exprimé une certaine frustration tout en soulignant l'engagement ferme du président Biden à poursuivre les efforts de médiation malgré les difficultés et certaines déclarations constructives.
Pendant ce temps, les opérations d'élimination des terroristes en Judée et en Samarie continuent.
Oui, l'armée israélienne a annoncé que 36 terroristes ont été éliminés et que 46 Palestiniens recherchés ont été arrêtés depuis le 28 août au cours d'une opération antiterroriste dans le nord de la Judée-Samarie. L'armée affirme avoir saisi des armes, détruit 3 laboratoires de fabrication d'explosifs et neutralisé des dizaines d'engins explosifs. Israël a expliqué que cette opération a été menée par la nécessité de démanteler les réseaux terroristes du Hamas et du djihad islamique palestinien, tous les deux soutenus par l'Iran en Judée et en Samarie.
Le reste de l'actualité, ce sont ces mesures qui vont être mises en place alors que les lycées et les collèges sont toujours en grève.
Oui, dès la semaine prochaine, d'ailleurs, des structures éducatives alternatives seront mises en place pour pallier à la grève des enseignants dans les écoles secondaires. Leur financement sera calculé en fonction du nombre d'élèves concernés dans chaque établissement touché par la grève. L'objectif est d'assurer la continuité de l'éducation des élèves tout en poursuivant des négociations avec les syndicats pour résoudre la question des salaires des enseignants. Le ministre de l'Éducation insiste sur l'importance l'importance de maintenir l'apprentissage des élèves malgré la crise actuelle.
Et puis enfin, on termine par l'acquisition d'une start-up israélienne par le géant américain Salesforce.
En effet, la société israélienne One a été acquise par le géant américain Salesforce pour la somme de 1,9 milliard de dollars. One, spécialisée dans la sauvegarde des systèmes cloud, a été fondée en 2015 par Ariel Berkman, Daniel Gershoni et Eran Cohen. L'acquisition marque la plus grande opération de Salesforce depuis l'achat de Slack en 2021.
Merci beaucoup Olivier, on vous retrouve tout à l'heure à 7h30 pour la revue de la presse israélienne. La météo de ce vendredi matin 6 septembre, les nuages sont nombreux en matinée avec encore quelques pluies sur l'extrême nord-est et le Pays Basque. Le soleil en revanche domine près de la Méditerranée et dans l'après-midi, le soleil va revenir timidement un peu partout sur l'Hexagone, mais il sera bien là, hein. Le soleil à Paris, il fera 23 degrés, 25 dans l'après-midi, 18 seulement à Biarritz et puis en Israël, des températures toujours hautes, 31 degrés à Jérusalem, 29 à Haïfa, 36 à Tibériade, 34 à Beersheva. Vendredi 6 septembre, entrée du Shabbat ce soir à Paris, 20h03, sortie demain soir à 21h08, on lira la paracha Shoftim et c'est le rendez-vous du vendredi. Le rabbin Chaim Nissenbaum qui est avec nous. Bonjour Chaim.
Bonjour à tous. Un billet d'humeur de rentrée, eh bien c'est toujours difficile. Toujours difficile parce que finalement nous reprenons le rythme des choses, c'est la règle du jeu. Nous reprenons le rythme et pourtant... nous devons ressentir que tout change, que tout a changé, peut-être en tout cas que tout doit changer. Et nous arrivons à présent dans une période qui est à la fois très particulière du calendrier juif, Elul, le dernier mois de l'année, la préparation au grand rendez-vous spirituel de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, tout cela emplit bien sûr notre cœur et notre esprit, et puis aussi les bouleversements du monde, et particulièrement sur notre terre, la terre la plus précieuse qui existe, la terre d'Israël, donnée depuis toujours par Dieu à son peuple. Oui, tant de choses, tant d'événements contradictoires, spirituels et matériels à prendre en compte. Alors, quel peut être le dénominateur commun ? De quoi devons-nous enfin nous imprégner aujourd'hui ? Il y a une grande idée, et elle préside à tout cela, c'est l'idée d'unité. Oui, l'idée d'unité parce que l'essence de Dieu qui apparaît dans la période, nous disent nos textes, dans cette période de Elul, d'avant Hoshana, l'unité de Dieu est quelque chose que nous devons ressentir en nous-mêmes. L'unité aussi de la création avec son Créateur est quelque chose qui doit nous pénétrer profondément. Et puis, bien entendu, l'unité des hommes et particulièrement l'unité au sein de notre peuple. Oui, tout ce qui introduit la division est en négatif toujours, mais particulièrement en ce moment spirituellement et aussi matériellement. Ainsi, lorsque nous voyons se lever des oppositions face aux événements dramatiques que connaît la terre d'Israël, eh bien lorsque nous voyons se lever des oppositions ici, dans ce pays, ou là-bas, sur place ou ailleurs, au sein même du peuple juif, au sein même de la communauté, eh bien nous nous souvenons qu'au-delà de tout, il y a ce principe d'unité. Ce principe, oui, ce principe parce qu'il tient de notre nature. Et c'est impératif, parce que sans lui, nous ne sommes strictement rien. Alors s'il y a un thème qu'aujourd'hui nous devons privilégier, que ce soit dans notre réflexion spirituelle sur la période, ou que ce soit une réflexion plus générale, on dira sociale ou sociétale, sur le monde en général, eh bien, ce sera celle d'unité. Rétablissons l'unité, rétablissons notre unité intérieure, ne nous laissons plus faire par toutes les tentations de division. N'oublions pas l'expression extraordinaire du Zohar qui, quand il parle, quand il oppose, ce monde-ci et le monde futur, le monde spirituel, et bien emploie les termes pour ce monde-ci de Alma de Prouda, le monde de la division. Et pour le monde spirituel, il parle de Alma Dikshot, le monde de la vérité, de l'éternité, le monde de l'unité, en fait. Oui, allons à la recherche de ce monde. Nous le possédons en nous. Il suffit de le mettre en œuvre et ainsi nous avancerons ensemble dans ce chemin que Dieu nous ouvre et nous réaliserons enfin la paix universelle, le bonheur des hommes. D'une certaine manière, cela dépend de chacun d'entre nous. Shabbat shalom à tous et une bonne préparation pour les fêtes qui nous attendent maintenant dans si peu de temps.
Effectivement, les fêtes très bientôt de Rosh Hashanah, notamment les fêtes de Tishri. Merci beaucoup Chaim et Shabbat shalom. On vous retrouve chaque semaine sur Radio J.
Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Un long métrage percutant où la géopolitique s'impose sur le tatami, une fiction qui sonne vraie tant elle est d'actualité. Et oui, ce matin avec Xavier Nataf, on va revenir sur le succès à venir de Tatami, le nouveau film de Guy Nativ et Zahra Amir Ibrahimi. Bonjour Xavier.
Bonjour Ilana et bonjour à tous. À voir absolument sur nos écrans depuis quelques jours le film Tatami, co-signé par l'Israélien Guy Nativ, le réalisateur de Skin et plus récemment de Golda, et la franco-iranienne Zahra Amir Ibrahimi, l'actrice, entre autres, des Nuits de Mashhad. Tatami raconte le dilemme d'une judokate iranienne qui va devoir choisir entre refuser de combattre une Israélienne dans une compétition internationale ou devenir une paria à sa patrie. Un scénario qui, malheureusement, s'inspire de la réalité, comme on a pu le voir récemment lors des Jeux Olympiques. Car même sur le tatami d'un championnat international, le gouvernement iranien s'insinue. La judokate se bat sur le terrain, mais ses combats vont bien au-delà de l'enceinte du stade. Un film en noir et blanc qui joue merveilleusement sur la blancheur du tatami, qui tranche à l'écran avec la pénombre qui l'entoure. Le public est là, mais reste invisible. Le tatami est filmé comme une scène de théâtre où l'on jouerait sa vie. Un parti pris plutôt radical, qui est l'une des forces de ce magnifique long-métrage. Pour réaliser son film, Guy Nativ a fait appel à des consultantes et actrices iraniennes, puis a poussé l'expérience jusqu'à la co-réalisation.
Well, I think there were specific stories that inspired me of Iranian women who were bold.
Je pense qu'il y a des histoires spécifiques qui m'ont inspiré, celles de femmes iraniennes qui sont audacieuses et qui ont accompli l'impossible, ce qui est un acte rebelle pour la liberté. Et c'était avant l'incident de Mahsa Amini, tout cela qui a déclenché toute une révolution, un mouvement.
And I was really inspired by that because there were Israelis and Iranians meetings.
Et cela m'a vraiment inspiré car il y a des rencontres entre Israéliens et Iraniens dans ces compétitions et une des amitiés derrière le régime et dans les coulisses.
So I'm not Iranian, obviously.
Je ne suis évidemment pas iranienne, mais je voulais une collaboration iranienne avec des femmes puissantes, talentueuses et artistiques en Iran. Et c'est pourquoi j'ai invité Zahra, Elham et d'autres personnes à collaborer avec moi. Et je pense que c'est une opportunité unique pour nous de faire quelque chose d'important à plusieurs niveaux.
To collaborate with me, and I think it's a unique opportunity for us to do something that is significant on many, many levels.
Have you been in contact with your family since this whole thing started?
Yes. Stacy has updated me about everything that's going on. We all understand that you're making the most important and hardest decision of your life. Do you wish to continue competing tonight?
I do.
Dans ce film, un thriller politique et sportif, la réalisation parvient à maintenir l'attention de la première à la dernière image. Et l'actrice iranienne Zahra Amir Ibrahimi n'est pas seulement derrière la caméra, mais également devant pour incarner le personnage de l'entraîneur Mariam. Captivant du début jusqu'à la fin, Tatami met le spectateur sur les charbons ardents. Il est le meilleur supporter de Leila, une sorte d'Amazon moderne qui, tombée de cheval, continuerait à se battre sans armure. La coach Mariam, quant à elle, est constamment déchirée entre une obligation de respecter des règles par peur des conséquences et la soif d'une liberté dont elle a rêvé, sans toutefois avoir le courage de la revendiquer, et vit à travers Leila un combat qu'elle aurait aimé elle-même pouvoir mener. Guerrière solitaire contre un système qu'elle veut fuir, héroïne incroyablement humaine cherchant à défendre des valeurs auxquelles elles sont viscéralement attachées, Leila et Mariam sont deux personnages difficiles à oublier. Courez-y vite, Ilana, Tatami est un film époustouflant qu'il ne faut louper sous aucun prétexte.
Merci beaucoup, conseil bien reçu Xavier Natav. Xavier qu'on peut retrouver aussi en podcast sur notre site internet radioj.fr et qui nous régale toujours de ses chroniques culture le vendredi matin. Tout de suite, l'essentiel de l'information.
Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian.
Radio J. 7h15, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit.
Bonjour Ilana, bonjour à tous. Tzal a mené des frappes nocturnes contre des sites du Hezbollah dans le sud du Liban. Un dépôt d'armes a notamment été visé à Blida. Plutôt, le groupe chiite a visé des bases aériennes en Galilée, à Ramot Naftali et à Beit Hillel. 36, c'est le nombre de terroristes éliminés en une semaine dans le nord de la Judée-Samarie, soit depuis le début de l'opération militaire israélienne Camp d'été dans la région. 3 laboratoires de fabrication de bombes ont également été détruits et une vingtaine d'armes confisquées. La guerre psychologique menée par le Hamas contre l'État hébreu se poursuit. Le groupe terroriste a publié hier soir une vidéo de propagande de l'otage assassiné Hersh Goldberg Polin, dont le corps a été récupéré par Tzal samedi dernier à Gaza. Une vidéo que sa famille a décrite comme un signal d'alarme pour que le monde agisse en faveur de la libération des autres otages toujours détenus dans le territoire palestinien. Les États-Unis exhortent Israël et le Hamas à finaliser un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. En déplacement à Haïti, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a confirmé hier soir les évaluations américaines selon lesquelles 90% de l'accord était finalisé. Il incombe vraiment aux deux parties de parvenir à un accord sur les questions restantes, a-t-il affirmé. En France, tout juste nommé à Matignon où il a promis des changements et des ruptures, le nouveau Premier ministre doit désormais s'atteler à composer un gouvernement. Michel Barnier doit recevoir ce matin les ténors de la droite, Gérard Larcher, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Enfin, côté Jeux paralympiques, Israël a décroché 2 nouvelles médailles hier. L'argent pour l'équipe féminine de goalball et le bronze en tennis fauteuil simple côté masculin pour Guy Sasson. Avec un total de 9 médailles, dont 4 en or, la délégation israélienne figure en 23e position du classement général.
Merci beaucoup Etanit. Prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera à partir de 8h, 7h30. N'oubliez pas la revue de la presse israélienne avec les studios Qualita.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Radio J.
Merci d'être avec nous. Et oui, c'est le week-end à la piscine, peut-être, puisqu'il y a ce bon plan qui vous est proposé par la mairie de Paris. Ce dimanche, toutes les piscines publiques seront gratuites dans notre belle capitale. La mairie de Paris qui a décidé effectivement de faire ce geste pour suivre l'élan insufflé par les Jeux Olympiques et Paralympiques, ainsi que la rentrée sportive. Comment mieux redonner à des gens qui y vont peu, soit parce qu'ils n'ont pas la culture, soit parce que c'est payant, c'est vrai, l'envie de découvrir des piscines qui, pour certaines sont magnifiques, nous demande la mairie de Paris. En effet, la piscine Pontoise notamment, qui a par exemple été rénovée pour ouvrir ses portes dans un style art déco fin 2023, à découvrir. Alors, outre les activités aquatiques, la mairie de Paris met également en place les Paris Sport Dimanche, du sport en plein air dans une petite quinzaine de lieux, tous les dimanches de 10h à 11h jusqu'au 13 octobre. Et puis un autre bon plan, j'en profite, je suis là pour ça, ce week-end également, 2 jours gratuits d'escalade dans les salles Arcos, présentes aux 4 coins de la France. Les salles Arcos qui organisent leur journée porte ouverte, un événement durant lequel vous pourrez venir découvrir ou redécouvrir la discipline de l'escalade gratuitement toujours, et ça, quel que soit votre niveau. Qu'importe que vous soyez plutôt du matin d'ailleurs ou de l'après-midi, votre salle parisienne se tiendra prête de 7h à minuit pour vous accueillir, que vous soyez seul, entre amis, en famille. Vous pourrez vous essayer à une session de grimpe, puisque les enfants, dès 4 ans, ça c'est important à savoir, peuvent escalader. Renseignez-vous.
Radio J.
Bonjour, c'est Lise Gutmann.
Le 10-11, Lise Gutmann.
Ravie de vous retrouver tout à l'heure au programme Judaïsme, divertissement, communauté.
Radio J. Un mariage, une bar ou bat mitzvah, Chapeau Paulin. Depuis 70 ans, est la référence dans la fabrication de chapeaux personnalisés aux couleurs de vos tenues de soirée. Chez Chapeau Paulin, vous retrouverez également une collection de livres à thème juif, de produits judaïka, des talites, des filines et mezouzotes, ainsi que tous les essentiels et les accessoires pour les cérémonies et fêtes. Chapeau Paulin, 06 09 66 84 91. De rue Rennequin à l'angle du 85 avenue de Wagram, Paris 17. Chapeau Paulin.com. Itzik Moshel, directeur de Dialang.
Shalom, combien de fois avez-vous essayé d'apprendre l'hébreu ou l'anglais sans réussir à le parler? Dialang vous donne la solution grâce à sa méthode unique d'apprentissage basée sur la pratique intensive de l'oral sans négliger la lecture et l'écrit. Cours en Zoom ou en présentiel.
Dialang, prix exceptionnel pour une année, 510€.
510 euros.
Pour connaître les dates des journées portes ouvertes en Zoom ou en présentiel, contactez Dialang, Dialang au 01 43 64 13 30 ou dialang.fr.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci d'être avec nous sur Radio J et plaisir de retrouver pour cette nouvelle saison le président du Consistoire Central de France, Élie Corchia, bonjour.
Bonjour Ilana.
Merci beaucoup Élie d'être avec nous et ravi de partager effectivement cette rentrée scolaire pour vous. Alors vous étiez sur tous les fronts hein, cet été, beaucoup d'actualités, c'est vrai malheureusement. Et vous avez choisi justement d'intituler votre chronique ce matin de Tel Aviv à la Grande Motte, l'été de tous les dangers.
Exactement. Parce que l'été que nous avons vécu était un été d'abord où on pouvait se reposer, recharger les batteries,
hein, oui.
Profiter évidemment en famille aussi de moments de partage. C'est toujours important cette période de l'été. Mais c'était aussi un été, effectivement, comme je l'ai mis dans ce titre, de tous les dangers, pour reprendre le titre d'un livre et, qui était paru et qui était connu. L'été de tous les dangers parce qu'il y a eu cette sensation que tout pouvait arriver. D'abord ici, et puis aussi en Israël, où on a une pensée pour les six victimes, les six otages qui ont été assassinés, exécutés, pour reprendre le terme sans doute le plus exact, par le Hamas, ce qui a causé évidemment une source d'indignation énorme. Et effectivement, quand on a vu les menaces notamment de l'Iran, on s'en rappelle, alors évidemment, finalement, grâce au Dôme de Fer, grâce aux forces de sécurité d'Israël, il n'y a pas eu de victimes. Mais rappelez-vous, en plein mois d'août, cette menace qui pesait sur la tête de la population civile, de tous les Israéliens, c'était effectivement quelque chose aussi qui nous inquiétait profondément. Et puis en France, on ne peut pas évidemment ne pas rappeler ce qui s'est passé avec cet attentat de la synagogue de la Grande Motte, qui, il faut s'en rappeler, intervient un mois après une tentative, en tout cas une préparation d'attentat au Mans. Et j'étais au Mans hier, où j'ai rencontré le président de la communauté juive, mon confrère Alain Ifra. Nous avons discuté de cette situation avec déjà quelqu'un qui fait une vidéo. Il prête allégeance à l'État islamique et il prévoit d'attaquer soit une synagogue, soit un cinéma au Mans. Il se trouve que la synagogue ne va pas l'attaquer. Pourquoi ? Parce qu'il sait que le commissariat est à proximité et que le siège de la gendarmerie est à 50 mètres. Donc c'est-à-dire que le risque terroriste est toujours là. Et c'est vrai que je pense que plus que jamais en cette rentrée, il faut qu'on ait conscience, et je le dirais notamment, on a un Premier ministre qui a été nommé hier soir, Michel Barnier, par le Président de la République. On verra sans doute dans les 48 heures quel gouvernement va être nommé par le Premier ministre Michel Barnier. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faudra rappeler. Je crois qu'en cette rentrée, après l'été que nous avons vécu, plus que jamais, la France et Israël doivent être solidaires face au terrorisme, face au risque évidemment du terrorisme islamiste et évidemment pour notre part, comme partout en diaspora, à cet antisémitisme qui gangrène la société. J'ai d'ailleurs été très touché qu'alors même que Israël était en pleine période de tension extrême face au risque d'attaque de l'Iran, le président d'État d'Israël, Yitzhak Herzog, m'appelle le dimanche 25 août au matin, après l'attentat commis contre la synagogue de la Grande Motte la veille, pour discuter avec moi, s'entretenir avec moi de la situation, comment ça s'était passé, comment la personne n'avait pas encore été arrêtée, hein, le suspect n'avait pas été encore arrêté, il n'a été arrêté que quelques heures plus tard dans une tour à Nîmes. Et donc il y a cette proximité, on sent bien, entre la France et Israël, et il s'était d'ailleurs entretenu avec le président Macron. Donc il faut vraiment toujours avoir en tête, et c'est ce que je dirais notamment à plusieurs membres du gouvernement qui seront nommés, plus que jamais, France et Israël doivent être solidaires par rapport à ce risque. Et évidemment, puisqu'on parle de la Grande Motte, je voudrais avoir une pensée ce matin, toute mon amitié en cette, alors qu'on va aborder cette période de rentrée, pour la synagogue de la Grande Motte, sa présidente, mon amie Sabine Atlan, son rabbin, le président du consistoire régional, Alain Zilberman, qui a été présent de tout le long, vraiment au quotidien avec la présidente et avec la communauté, et tous mes amis de la région que nous avons retrouvés lorsque nous nous sommes déplacés avec le grand rabbin de France, à la fois à la synagogue de la Grande Motte, le mardi 27 août, mais aussi au grand rassemblement qui a eu lieu place de la Comédie à Montpellier, et voir ces 1000 personnes réunies place de la Comédie, dont énormément de personnes qui n'étaient pas de la communauté juive, beaucoup d'élus qui étaient là pour dire non, on n'accepte pas que dans notre pays on puisse encore en 2024 s'attaquer à des citoyens de confession juive simplement parce qu'ils sont juifs. Eh bien non, on doit combattre ce fléau qu'est l'antisémitisme, ce fléau qu'est le terrorisme aussi. Je pense que c'est quelque chose qui a aussi marqué la fin de cet été.
Alors, il nous reste à peine une minute. Bien sûr, toutes les semaines, on va vous retrouver. Élie, et j'imagine que vous allez porter encore de beaux projets pour cette année avec le Consistoire.
Oui, tout à fait. Des projets, d'abord, il y a les fêtes de Ticherie qui vont approcher, qui auront lieu dans un mois, un peu moins d'un mois. Beaucoup de projets pour venir en soutien aux communautés à travers toute la France. C'est la première chose. Et puis, évidemment, on aura l'occasion d'en reparler. Beaucoup de projets qui sont liés à la vitalité de la communauté juive française, par rapport à la jeunesse, par rapport à la culture, par rapport à la transmission du judaïsme. Et puis aussi, on en parlera aussi, des voyages de solidarité et des actions de soutien par rapport à Israël.
Eh bien, merci beaucoup. Vous allez revenir avec des livres, j'espère.
Dès la semaine prochaine.
Dès la semaine prochaine. Eh bien, ça nous fait très plaisir. Merci beaucoup, Élie Korchia, président du Consistoire central de France. Je vous dis Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.
Radio J, Zoom Israël, Pascal Sunshine.
Radio J. Merci de nous rejoindre sur Radio J. On revient à l'actualité en Israël avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine. Pascal, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken assure que l'accord de trêve est finalisé à 90%, mais peut-on encore combler l'écart sur les 10% qui restent ?
Côté israélien, c'est plutôt le pessimisme qui prévaut. Plusieurs sources israéliennes estiment même que la nouvelle proposition américaine sera rejetée par le Hamas et par Israël. La chaîne publique Kan cite notamment une source israélienne qui voit les efforts des États-Unis comme une respiration artificielle sur un patient en état de mort clinique, car les deux camps ne dévient pas de leur position. L'accord de trêve, dont les conditions ont été largement acceptées par Israël au fil des mois, est censé se dérouler en trois phases. Un premier cessez-le-feu de 42 jours avec la libération d'un contingent d'otages en échange de terroristes et d'un redéploiement partiel de Tsahal hors des agglomérations de Gaza. Une deuxième phase sur le même principe et enfin une troisième qui verra la restitution des dépouilles des otages tués en captivité en échange d'un plan de reconstruction de la bande de Gaza. Voilà pour les grandes lignes. Seulement, les pourparlers, on le sait, achoppent sur deux questions critiques. Les conditions d'échange des otages contre des terroristes incarcérés en Israël. Et puis, ce qui est devenu le sujet numéro un, la route Philadelphie, qui marque les 14 kilomètres de frontière entre le sud de la bande de Gaza et le nord de l'Égypte. Israël veut y rester, le Hamas veut qu'il en sorte. Et depuis, on tourne en rond. Les États-Unis reconnaissent d'ailleurs que c'est le Hamas qui bloque toute avancée dans les négociations. Hier, le porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche rappelait d'ailleurs une évidence. Jusqu'au 6 octobre, il y avait une trêve en vigueur entre Israël et le Hamas, et c'est le Hamas qui a violé cette trêve, a déclaré John Kirby. L'administration américaine, qui s'entête à faire aboutir un compromis coûte que coûte, sait que le temps est compté. D'abord, sur la scène intérieure américaine, avec l'élection présidentielle dans moins de deux mois, une trêve à Gaza serait évidemment un atout de poids dans la campagne de la candidate démocrate Kamala Harris. Mais il y a aussi la réalité de la guerre. Depuis que Washington a relancé les négociations à la mi-août, on est entré dans une sorte de phase d'attente, comme un round d'observation avant une nouvelle étape. Soit la trêve est conclue entre Israël et le Hamas à Gaza, et alors on peut commencer à envisager une désescalade progressive sur les autres fronts, c'est l'objectif fixé et annoncé par les États-Unis. Soit la négociation échoue, et alors la campagne de Gaza continue et donne une justification aux autres ennemis d'Israël d'intensifier leurs attaques. On est déjà en phase d'escalade sur le front nord, avec le Hezbollah qui accroît ses tirs sur la Haute-Galilée. Le front de Judée-Samarie s'est réactivé. Et il y a bien sûr l'Iran, toujours en embuscade, et dont le programme nucléaire militaire reste la première menace stratégique pour Israël et pour toute la région. On est donc de nouveau arrivé à un carrefour, ce fameux carrefour stratégique dont parlait la semaine dernière le ministre de la Défense, Yoav Gallant. Hier soir, Benjamin Netanyahou a tenu des consultations avec les responsables de la défense pour envisager les implications de l'échec ou de la réussite de l'accord de trêve et on connaîtra la réponse dans les jours qui viennent.
Eh bien, on suivra évidemment tout cela. Merci beaucoup, Pascal Zunshine, notre correspondante à Jérusalem. Rendez-vous tout à l'heure dans la matinée à partir de 8h. Pascal, qu'on retrouve évidemment tous les jours, vous le savez, dès 6h du matin. Dans quelques instants, la revue de la presse israélienne avec notre correspondant, autre correspondant des studios Qualita, Olivier Granilic. Le retour du billet de Shabbat. Et j'attends Myriam Barouch pour chanter tout à l'heure avec elle. Elle sera avec nous. C'est la rentrée de Myriam, effectivement. Et puis juste après, l'invité de Christophe Barbier, comme tous les matins à 7h45.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Il est 7h30, bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous comme chaque matin. Nous sommes le vendredi 6 septembre 2024. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h, 336e jour de guerre en Israël et désormais 101 otages dans la bande de Gaza.
Direct de Jérusalem vous est offert par le Keren Hayesod. Depuis plus de 100 ans, le Keren Hayesod soutient les plus fragiles en Israël.
keren-hayesod.fr.
Et oui, à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Olivier Granilic. Olivier, ce matin, la presse israélienne revient sur les négociations pour la libération des otages qui semblent être complètement bloquées.
Oui, c'est le titre principal du Yediot Ahronot ce matin qui explique que les négociations pour le cessez-feu entre Israël et le Hamas sont effectivement bloquées par un différend sur la durée du contrôle israélien de l'axe de Philadelphie, une zone clé pour empêcher la contrebande d'armes à Gaza. Israël demande un contrôle prolongé tandis que le Hamas s'y oppose, menant à un écart donc de 13 jours selon le Yediot Ahronot dans les discussions. Les médiateurs égyptiens et qataris cherche une solution, mais selon le Yediot Ahronot, les exigences israéliennes de dernière minute compliquent encore plus les pourparlers. Et pour le Israël Hayom, qui explique ce matin que 90% de l'accord est conclu, et comme nous l'a expliqué tout à l'heure Pascal, ces 10% qui restent sont les plus difficiles.
Et puis pourtant, la Maison Blanche a pointé du doigt le Hamas et l'a rendu responsable de l'échec des négociations, Olivier.
Oui, c'est John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, a principalement pointé du doigt le chef du Hamas, Yahya Sinwar, le considérant comme un obstacle majeur aux négociations de cessez-le-feu. Kirby a souligné bien que la structure de base d'un accord ait été convenue. Les détails pratiques, en particulier les échanges de prisonniers, sont devenus plus difficiles à résoudre après les récents événements et plus particulièrement l'exécution des 6 otages israéliens par le Hamas.
Les médias révèlent aussi quelles étaient les véritables intentions du chef du Hamas, Yahya Sinwar, en cas de signature d'un accord.
Oui, il s'agit d'un document secret relevé par un quotidien américain, repris ce matin par les médias israéliens. Ce document montre que Yahya Sinwar, le leader du Hamas, avait planifié de s'échapper vers l'Iran avec les otages israéliens via l'axe de Philadelphie. Cette information a été obtenue suite à la capture d'un haut responsable du Hamas. La position de Sinwar sur le contrôle de cet axe est considérée comme un obstacle majeur aux négociations en cours. Israël refuse de se retirer de cette zone, craignant que cela permette au Hamas de renforcer ses capacités militaires et de poursuivre la contrebande d'armes.
La Judée Samarie à présent avec les données du Shin Bet qui révèlent une hausse de la motivation pour les actions terroristes.
Oui, le Israël Hayom révèle que les récentes données du Shin Bet révèlent une augmentation significative des tentatives d'attentats terroristes en Judée-Samarie. En août, 90 attentats ont été déjoués contre 53 en juillet. Et parmi les attaques, on note des fusillades, bien entendu, des bombes artisanales. Et pour la première fois dans deux décennies, une tentative d'attentat suicide à Tel Aviv. La région de Hebron est devenue un foyer de violence terroriste avec notamment des voitures piégées. Puis l'armée israélienne s'inquiète aussi de cette escalade de la violence et renforce ses opérations pour contrôler cette menace croissante.
Il est aussi question de l'Iran qui a utilisé des criminels pour tenter de s'en prendre à des Israéliens et des Juifs en Europe.
Oui, c'est l'Israël Hayom aussi qui nous en parle ce matin d'une enquête qui a été menée par des médias tels que Der Spiegel en Allemagne et Mediapart en France qui révèle que l'Iran a essayé de mettre en place une cellule criminelle visant des Israéliens et des Juifs en Allemagne et en France, dirigée par un trafiquant de drogue français. Cette cellule aurait tenté d'utiliser des criminels pour attaquer des intérêts israéliens et surveiller des leaders communautaires juifs En France, l'exécutant en principal Abdulkarim alias Crimo est un criminel connu et condamné dans le passé pour meurtre. Il a été aussi chargé de suivre et de recueillir des informations sur les cibles. Les services de sécurité allemands, français et israéliens ont bien entendu et fort heureusement déjoué ses plans. Cette méthode, nous dit le journal, permet à l'Iran de mener des attaques sans y être directement impliqué.
Et la tentative d'attentat contre le consulat israélien à Munich est largement évoquée aussi par les quotidiens israéliens.
En effet, la presse israélienne nous explique qu'un homme a ouvert le feu hier matin avec un fusil M16 sur le consulat d'Israël à Munich. Il a été neutralisé par la police allemande. Aucun blessé n'est à déplorer. Et cette tentative d'attentat a eu lieu 52 ans, jour pour jour après le massacre des athlètes israéliens aux Jeux Olympiques de Munich. La consul d'Israël à Munich a expliqué hier sur Galesal, la radio israélienne, qu'en raison des cérémonies de commémoration, le consulat d'Israël était fermé, personne n'a été blessé.
Et puis sur le plan politique, le Maariv a examiné si la conférence de presse de Benjamin Netanyahou cette semaine avait eu un impact favorable.
En effet, à la suite du discours Philadelphie, cette fameuse conférence de presse qui a été tenue cette semaine par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le Likoud gagne 2 sièges. Netanyahou reprend également l'avantage sur Benny Gantz en termes de popularité pour le poste de Premier ministre. C'est ce que ressort d'un sondage réalisé ce matin par le Maariv. Sauf Naftali Bennett dépasse Benjamin Netanyahou sur la question de l'adéquation au poste de Premier ministre avec 49% des sondages. Le jugeant apte compte 34% qui préfèrent Benjamin Netanyahou. Et le sondage révèle également que le camp de l'unité nationale gagne 1 siège, tandis que le parti de Yair Lapid perd 2 sièges et le parti orthodoxe judaïste unifié perd lui aussi 1 siège. En résumé, la coalition se renforce cette semaine avec un total de 52 sièges contre 58 pour le bloc d'opposition. Les partis arabes obtiennent 10 sièges.
Et puis enfin, pour terminer, une nouvelle fierté israélienne aux Jeux paralympiques de Paris.
Oui, c'est une 9e médaille, Ilana, pour la délégation israélienne aux Jeux paralympiques de Paris. Toute la presse salue ce matin le tennisman Guy Sasson, qui a décroché le bronze en tennis en fauteuil roulant après une victoire acharnée en 3-7 contre le Turc Ahmet Kaplan. Victime d'un accident de ski en 2015, Sasson est devenu handicapé, mais a exploré divers sports avant de trouver sa vocation dans le tennis en moins de 10 ans. Il s'est hissé parmi les meilleurs joueurs de tennis en fauteuil roulant, une véritable prouesse sportive et personnelle et une belle fierté pour l'État d'Israël. Shabbat shalom.
Shabbat shalom, Olivier. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve chaque matin à 7h et 7h30.
Le direct de Jérusalem vous a été offert par le Keren Hayesod. Depuis plus de 100 ans, le Keren Hayesod soutient les plus fragiles en Israël. Depuis le 7 octobre, les victimes du terrorisme sont la priorité du Keren Hayesod. 300 000 déplacés, une population entière traumatisée. Les besoins sont immenses. Aidons-les.
Keren-ayesod.fr.
Ensemble, nous vaincrons. Radio,
radio. Le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci d'être avec nous sur Radio J. Dans quelques instants, le retour de Myriam Barouk. Et oui, on l'attendait, la célébrité de Radio J, Myriam Barouk, qui sera avec nous. Et puis juste après, l'invité de Christophe Barbier ce matin, ce sera Marc Ferracci, député Renaissance. Je vous dis à tout de suite, les amis.
Radio J.
14h-15h. Le Grand Journal.
Eva Soto.
Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. Une heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le Grand Journal, 14h-15h. À tout à l'heure.
Depuis le 7 octobre, le KKL est sur tous les fronts pour aider les populations d'Israël. Aide financière d'urgence pour les villes du sud du pays, transport et relogement des populations évacuées vers le centre du pays, soutien financier au centre d'aide psychologique, accompagnement éducatif. Le KKL agit quotidiennement pour le peuple d'Israël. Continuez à nous aider, à les aider. Faites un don sur don.kkl.fr/urgence. KKL de France, 01 42 86 88 88. Vous rêvez d'un investissement immobilier rentable et sécurisé? Avec Helios Premium Immobilier, c'est possible au cœur de la magnifique Riviera Maya au Mexique.
Helios Premium Immobilier.
L'équipe française d'Helios Premium Immobilier vous accompagne sur place à chaque étape de votre projet. Investissez sans contrainte, diversifiez vos avoirs et maximisez vos gains dans un marché en pleine croissance avec un environnement fiscal avantageux. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle.
Helios Premium Immobilier.
WhatsApp au +33 601 741 452.
Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Radio J. Merci d'être avec nous sur Radio J. Dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité Marc Ferracci, député Renaissance. Bonjour messieurs.
Bonjour Ilana.
Merci d'être avec nous et sans plus tarder, c'est la troisième saison.
Ouais.
Avec elle, Myriam Barouk est avec nous. Bonjour Myriam.
Bonjour Ilana. Excusez-moi, je rigole. Vous savez pas pourquoi, je vous explique rapidement. Ça fait longtemps que je suis pas venue parce qu'avant de commencer, j'ai poussé le micro. Genre, je suis tellement chez moi que j'ai dit, bon, il me gêne le micro là pour parler avec vous tranquille Ilana.
Mais oui, mais troisième saison, vous faites partie des humoristes les plus anciennes désormais de la matinale.
Ben voilà, je pars plus. Je vous aime bien, j'aime bien voir des photos de votre film, Ilana.
Alors on chante.
En plus, Marc Ferracci est là pour la troisième fois. Ça fait trois fois qu'il dit qu'il connaît pas le jingle, mais je vais quand même le mettre devant le fait accompli. Messieurs, madame, tous ensemble, 3, 4.
Le billet Shabbat.
Marco, vous décollez, il n'y a que trois mots, merde. Allez, on va commencer. Alors déjà, vous m'avez manqué de ouf. J'ai fait un câlin, un cri-cri quand je suis arrivée. Vous m'avez manqué, il y avait un vide dans ma vie comme celle à Matignon. Très bien. Et je reviens et hop, enfin, le nom du nouveau Premier ministre. J'ai l'impression, après vous allez dire que je ramène tout à moi, mais j'ai l'impression que le président a dit, tant que Myriam Barouk ne fait pas de blagues sur le nouveau gouvernement, eh ben, il n'y a pas de gouvernement. Et comme par hasard, hier, je dis que je reviens faire des chroniques et là, d'un coup, il en trouve un de Premier ministre. Alors, pas trop de gauche, hein. Et vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps, hein, quand le nouveau Front Populaire était en PLS à pas se mettre d'accord sur un nom à donner. Ils étaient là, vite, on nous regarde, faut pas qu'on se trompe sur le nom qu'on va donner. Ils ont épluché toutes les hypothèses de chaque potentiel candidat, ils ont dû se parler alors qu'ils peuvent pas se saquer. Moi j'imagine le PS essayer de s'entendre avec LFI et pour aller dire allez, on se force, c'est pour le bien, allez, on se force, on y va. Et Macron dans les tribunes, tout sourire, en train de regarder une équipe s'entraîner et après il leur dit, ah, mais il n'y avait pas de tournoi, désolé, il n'y a pas de médaille. Mais c'est bien, regardez le bon côté des choses, vous avez fait du sport. Et là, Michel Barnier. C'est la gauche qui avait un peu gagné.
Non, c'est ce que la gauche avait dit.
Un petit peu. Ah, c'est pour ça que j'ai dit, voilà, Ilana, j'ai dit, c'est la gauche qui avait un peu gagné. Et Macron n'a pas d'enfant, mais il nous prend pour ses gosses. Oh, c'est mignon, ils ont dit on veut la gauche. Oh, mais tu parles. Mais c'est adorable. Mais oui, la gauche, c'est gentil, la gauche. Papa aussi, il aimait la gauche quand il était petit. Mais après, on grandit. Laisse faire papa. Non. Tu as eu le bâton de parole. Maintenant, papa, reprends le bâton de parole. C'est pas bon pour toi, la gauche. Ça donne mal au ventre. Si je te donne la gauche, après, tu auras plein de caries. Et oh, en plus, il y a le loup-garou, il va venir. Je suis dodo maintenant. Alors, Michel Barnier, et non Michel Bernier, c'est con. Elle avait que 68 ans. Michel Barnier, un peu notre Joe Biden à nous, il est là depuis toujours et il accède à sa plus haute fonction à la retraite. Bon, hier soir, j'explique à ma fille qu'on a enfin un premier ministre et là, mon Dieu, mes crises de fou rire, Ilana. Elle me dit, oh pourquoi c'était pas toi? Elle pensait quand j'étais premier ministre, je sais pas comment ma famille me voit, mais il faut que j'arrête de porter le poids de l'existence sur mes épaules. Non mais t'sais, elle se dit, je crie tellement que quand je dis que c'est l'heure de faire dodo, elle se dit, bah c'est sûr, elle parle à tout le monde, tu vois. En plus, ça se tient, tu sais, souvent le soir après les avoir couchés, je pars travailler, moi, faire des blagues sur scène. Enfin, en tout cas, je pars, elle me voit partir de la maison. Elle doit se dire, bah voilà, elle va border toute la France maintenant. En même temps, à l'école, tu sais, les animateurs lui disent souvent, on a vu ta mère à la télé. Elle voit que je passe mon temps à donner des ordres à tout le monde à la maison, y compris son papa. Et mon mari dit que mon métier, c'est d'être une guignole. Franchement, ministre, ça se tient. Hein. Ensuite, je lui explique comment ça va se passer. Je dis, voilà, maintenant, le premier ministre va nommer le gouvernement. Elle me fait étiller, toujours pas. Je continue, je lui explique les différents ministères et elle me dit un truc trop mignon. Elle me dit, il y a le ministre des instruments.
Ah, c'est très mignon.
Mais j'ai dit non, mais il pourrait parce qu'ils maîtrisent tous le pipeau. Sans transition.
Ah, ça m'avait manqué. On disait, on fait pas les petits.
Non,
ah.
Ilana, j'ai voulu lever la main pour vous le dire, mais ça se trouve, elle va oublier.
Bah non, j'ai oublié.
Je vais le faire. Attendez, regardez. Vous le dites quand je lève la main. Cet été, j'étais en Bretagne.
Il reste 30 secondes. Ouais.
Ah, 30 secondes ouais. Sérieux? Oh là là. Bah non, bah je raconterai ça la semaine prochaine. parce que là, j'en ai au moins encore pour 45 secondes. Et Christophe Barbier, je sais que vous avez plein de questions à poser à Marco. Donc, merci de m'avoir écouté. C'était un vrai plaisir pour ma rentrée. Et vous écouterez donc ce qui s'est passé cet été en Bretagne la semaine prochaine.
Elle avait déjà écrite la chronique de la semaine prochaine.
Quel teaser,
ça, c'est bien joué de la part.
Vous saviez qu'elle avait déjà écrite une chronique hier parce que elle pensait qu'elle allait pas avoir de premier ministre.
J'étais sûre que non.
Elle a dû tout recommencer depuis le début.
Et à 17h, j'ai tout déchiré. J'ai dit, allez, on fait une autre chronique maintenant.
Merci beaucoup, Myriam Barouk. Et plaisir de vous retrouver donc le vendredi matin. Et tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, c'est Marc Ferracci.
Les grands débats commencent sur Radio G.
Sur Radio G.
Marc Ferracci, bonjour.
Bonjour.
Député Renaissance des Français établis hors de France, notamment en Suisse. Michel Barnier, Premier ministre, c'est un choix par défaut, après toutes les hypothèses qui ont été épuisées?
C'est un choix qui correspond aux critères qui ont été posés par le gouvernement, pour le gouvernement, par le président. Et qui correspondent à la situation politique que nous vivons. C'est le choix de quelqu'un qui devrait apporter de la stabilité, parce que les consultations qui ont été menées avaient vocation à regarder qui allait être censuré et qui avait des chances de ne pas l'être. Et Michel Barnier apparaît comme un profil qui est relativement rassembleur. Et ça, c'est le premier critère. Je vais quand même en rajouter un autre qui nous tient à cœur, nous autres parlementaires, de l'ancienne majorité, on n'est plus la majorité, ça vous a pas échappé, on a perdu les élections, c'est que on souhaitait aussi, je pense que le président était sensible à ce critère, quelqu'un qui ne détricote pas, ou en tout cas pas tout de suite, un certain nombre de réformes que nous avons faites, en particulier dans le domaine économique et social. Il y a des résultats qui ont été obtenus, des emplois qui ont été créés, des usines qui ont rouvert. Et il est vrai que d'autres candidats, je pense en particulier à Lucie Castet, qui était la candidate du Nouveau Front Populaire, étaient porteurs d'un programme qui allait remettre en question tout cela. Donc c'est vrai que ce critère de stabilité est aussi... je l'espère, ça je ne préjuge pas de ce que sera la feuille de route de Michel Barnier, il va la définir lui-même, mais en tout cas, l'idée qu'on ne va pas jeter aux orties tout ce qui a été fait depuis 7 ans, eh bien, correspond au fond à ce qu'on pouvait attendre de la nomination du Premier ministre.
Il promet quand même des changements et des ruptures. Alors, quelles sont les ruptures que vous trouveriez légitimes si sur l'attractivité de la France, il faut être dans la continuité?
Écoutez, il y a un éléphant dans la pièce aujourd'hui. Pour la France, c'est la situation des finances publiques. Il faut se le dire, il faut le redire. On est dans une situation très délicate pour tout un tas de raisons qui tiennent essentiellement à ce qui s'est passé ces dernières années, à la crise du Covid, à la crise ukrainienne qui nous a mené les gouvernements successifs à soutenir beaucoup les Français et l'économie. Ça a creusé les déficits, ça a creusé la dette. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation très délicate. Et je pense que nous devons d'abord collectivement nous convaincre de ça. Et je ne sais pas à quelle rupture Michel Barnier pense. C'est à lui qu'il faudrait poser la question. Mais en tout cas, moi je pense qu'il faut qu'on change véritablement de braquet sur la maîtrise des finances publiques. Pas forcément pour couper de manière bête et méchante dans les dépenses.
C'est pas l'austérité que vous
promettez. Non, absolument pas. Parce que l'austérité, on le sait, ça nuit à la croissance, ça nuit à la création d'emplois. En revanche, l'évaluation systématique des dépenses publiques pour savoir ce qui marche, ce qui marche pas. Il y a des aides qui marchent, il y a des aides qui ne marchent pas, qui sont de gros effets d'aubaine. Il y a des prestations qui, par exemple, ne réduisent pas les inégalités comme elles le devraient. Il y a beaucoup de choses que l'on dépense sans savoir véritablement ce que sont les effets de ces dépenses. Et moi, j'ai beaucoup œuvré dans ma vie d'avant, quand j'étais universitaire, sur l'évaluation des politiques publiques. Je fais des propositions, notamment des propositions dont j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec vous, qu'on appelle les clauses d'extinction. Ça consiste à dire que certaines dépenses, certaines niches fiscales, l'argent qu'on donne à des entreprises ou à des acteurs économiques et sociaux, on ne le donne pas ad vitam aeternam. C'est assorti d'un calendrier, et au terme de ce calendrier, on supprime tout s'il n'y a pas une évaluation qui dit que ça marche. Ça, c'est des principes qui sont pour moi des principes de rupture et qui devraient irriguer un petit peu l'action du gouvernement et du prochain gouvernement, je l'espère.
Il a parlé de la dette financière, le Premier ministre, il a parlé aussi de la dette écologique. Qu'est-ce qu'il faut entendre par ça?
La dette écologique, c'est simplement l'idée que nos actions collectives, la croissance, mais aussi ce que nous faisons dans notre vie quotidienne, a un impact sur l'environnement, et que on a au fond, un patrimoine environnemental, c'est ce qui est lié aux émissions de CO2, mais c'est aussi ce qui est lié à la biodiversité, qu'il nous faut préserver. Quand on creuse la dette écologique, ça veut dire qu'on entame ce capital environnemental. Et si on le fait sans tenir compte des effets à long terme pour nos enfants, pour les générations futures, eh bien, à un moment ou à un autre, nous ne sommes pas responsables. Et donc, je pense que cette notion de dette écologique est évidemment moins facile à saisir, à quantifier que la dette financière. C'est une notion absolument essentielle. Moi, je suis heureux, je vais vous dire, que Michel Barnier, qui est quelqu'un qui est issu d'une famille politique qui n'a pas forcément fait de l'écologie son cheval de bataille.
Même s'il a été un ministre de l'Environnement en 93,
tout
il y a plus
fait,
de 30 ans.
Et tout à fait, vous avez tout à fait raison de le signaler. Mais il est quand même issu d'une famille politique dans laquelle l'écologie, c'est pas forcément le dessus de la pile des préoccupations. Moi, je trouve intéressant, rassurant, qu'ils mettent cette question écologique un petit peu au sommet des priorités.
Alors comment faut-il appeler ce nouveau régime ? Coexistence exigeante, comme dit l'Élysée ? Cohabitation, comme ont l'habitude de dire les Français ? Certains parlent de cohalitation, un mélange de coalition et de cohabitation.
Mais moi, je ne vais pas me perdre dans la sémantique et dans ce type de nuances. Ce dont on a besoin, c'est d'abord un gouvernement qui représente les sensibilités diverses des formations républicaines qui sont à l'Assemblée.
Donc il faut une coalition large, là.
Voilà, vous voulez parler de coalition, en tout cas un gouvernement dont les ministres sont issus de la droite républicaine, de la gauche républicaine. Je pense qu'il ne faut pas perdre...
Faudra en trouver, c'est pas simple, à la gauche, ce matin, elle boude.
Je pense qu'il ne faut pas perdre l'ambition de convaincre un certain nombre de républicains sincères, qui ne transigent pas sur la laïcité, sur l'universalisme républicain, et qui, de ce fait, assument une forme de rupture avec la France insoumise. Des gens qui sont également responsables sur les enjeux budgétaires, et il y en a aussi parmi les députés de gauche. Il ne faut pas abandonner l'ambition de les faire venir au gouvernement. Évidemment, probablement des députés du Bloc central. Je rappelle quand même qu'on représente 170 députés, donc nous sommes d'une force absolument pivot.
La deuxième alliance.
Enfin, derrière même si on raisonne en termes de groupe, c'est-à-dire de parti politique, le parti Renaissance, dont le groupe parlementaire s'appelle maintenant Ensemble pour la République, est le deuxième groupe politique de l'Assemblée derrière le Rassemblement national, il faut quand même le rappeler. Donc tout ça donne quand même des leviers pour agir. Et je pense que le gouvernement, puisque je vous posais la question, est-ce que c'est une coalition, une coexistence ? Le gouvernement a déjà besoin d'être un gouvernement pluriel. Je reprends cette expression que l'on devait à Lionel Jospin.
Et la gauche plurielle.
Mais il doit d'abord être pluriel. Ensuite, la feuille de route, c'est-à-dire la déclaration de politique générale et le projet politique de Michel Barnier doit emprunter à différentes thématiques, différents sujets qui, pour certains, tiennent à cœur à la gauche, et pour d'autres, tiennent à cœur à la droite. Ça, je pense que c'est aussi un élément d'équilibre. Nous, on sera évidemment vigilants, je vous l'ai dit, je le redis quand même, à ce que ne soient pas remises en question un certain nombre d'avancées qui ont produit des résultats sur le volet économique et social, et en particulier.
La réforme des retraites vous semble sauvée ?
Écoutez, je n'ai pas de boule de cristal, vous savez, dans la période, je dirais simplement que Michel Barnier... même si je ne suis pas issu de son camp politique et je ne suis absolument pas d'accord sur tout probablement avec lui, quelqu'un qui a une forme de responsabilité sur les enjeux budgétaires, cette réforme nous l'avons faite pour deux raisons. D'abord pour préserver notre système par répartition et aussi parce que faire la réforme des retraites, c'est augmenter le taux d'emploi des seniors, faire en sorte que plus de seniors travaillent. D'ailleurs, l'INSEE a montré il y a quelques semaines qu'il y avait déjà des effets, alors que la réforme est en vigueur simplement depuis l'automne 2023. On voit déjà dans les chiffres une augmentation du taux d'emploi des seniors qui est liée au recul progressif de l'âge légal. Ça, c'est absolument essentiel parce que augmenter le taux d'emploi, c'est nécessaire pour financer les investissements dans l'écologie, dans l'industrie, dans notre souveraineté au sens large. Et de ce point de vue, si on ne se dote pas d'une stratégie vers le plein emploi, on n'y arrivera pas. La réforme des retraites est très importante pour ça. Donc, est-ce qu'elle est sauvée ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que Michel Barnier sera attentif à ce que les fondamentaux de cette réforme, je l'espère, ne soient pas forcément remis en question.
Michel Barnier, senior au travail, ça on peut le dire. La gauche l'accueille mal. Elle dit c'est l'otage du RN, approuvé par Marine Le Pen, titre Libé ce matin. Que leur répondre ?
Écoutez, d'abord que la gauche devrait se regarder dans un miroir. Il y avait un candidat sélectionné dans la la shortlist, comme on dit, par le président de la République, qui était issu de la gauche, c'était Bernard Cazeneuve. Quelqu'un de tout à fait respectable, d'expérimenté, qui, sur le plan des valeurs, était en rupture profonde, je le pense, avec la France insoumise. Le Parti socialiste a fait le choix, allez, on va le dire, d'évincer Bernard Cazeneuve. En tout cas, de ne pas envisager la possibilité de le laisser gouverner sans motion de censure au-dessus de la tête.
Pour ne pas fâcher LFI. Pour
tout à fait, il y a une vassalisation du Parti Socialiste vis-à-vis de LFI qui est manifeste sur ce sujet-là. Maintenant, la gauche a un Premier ministre qui est issu de la droite, ils n'ont s'en prendre qu'à eux-mêmes, j'ai envie de le dire. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de leçon à donner de la part de la gauche sur ce sujet-là. Quant à Marine Le Pen au Rassemblement National, vous savez, elle ne choisit rien. Ils ont un nombre de députés importants, ils n'en ont jamais eu autant, mais ils ne sont pas en capacité d'être déterminants dans cette Assemblée.
Il faut qu'ils s'ajoutent au Front Populaire pour faire tomber un gouvernement.
Exactement. À eux seuls, ils n'ont pas la majorité. Et donc, notre responsabilité maintenant, eh bien, c'est de faire adopter des textes, texte par texte. Il va falloir choisir à la fois les sujets, puis il va falloir aussi aller convaincre un certain nombre de nos collègues à gauche comme à droite, qu'on peut gouverner autrement. Parce que c'est ça, au fond, l'enjeu de cette situation. C'est de montrer qu'on peut changer de culture politique et légiférer, gouverner autrement.
Compte tenu de la situation, souhaitez-vous qu'il y ait une session extraordinaire, très vite, là, à la mi-septembre, comme le demande d'ailleurs la présidente de l'Assemblée nationale?
Écoutez, moi, je considère qu'on a un Premier ministre, c'est une bonne chose. Il faut quand même lui laisser un petit peu de temps pour constituer ses équipes. Vous savez, vous n'arrivez pas, en tant que Premier ministre, devant le Parlement sans avoir des conseillers derrière vous, un gouvernement derrière vous. Donc, on a besoin de nommer un gouvernement. Et je vous l'ai dit, ça ne va pas forcément être simple de trouver cette diversité dans la composition du gouvernement. Dès le début octobre, la session ordinaire commence. Est-ce qu'on doit faire une session extraordinaire avant, quelques jours avant, pour donner la possibilité d'interpeller le Premier ministre, de faire une séance de questions au gouvernement? Peut-être, mais très sincèrement, ça ne me semble pas être la priorité absolue.
Dans sa campagne pour la primaire de droite en 2021, parce qu'il voulait se présenter à la présidentielle, Michel Barnier avait parlé d'un moratoire sur l'immigration, avec un resserrement aussi du regroupement familial. Est-ce que ça vous irait ?
Écoutez, c'est là qu'on va avoir un dialogue exigeant. Quand je dis on, c'est nous, les députés du Bloc central, avec Michel Barnier, parce que nous avons fait voter une loi sur l'immigration, qui est une loi équilibrée, une loi qui est dur sur un certain nombre de volets régaliens, et en particulier pour expulser les gens qui n'ont pas leur place sur le territoire français, les gens qui sont en situation illégale, mais qui est également une loi d'humanité qui favorise l'intégration par le travail en particulier des gens qui ont leur place sur le territoire français. Nous sommes attachés à cet équilibre, et si le Premier ministre veut aller dans un sens beaucoup plus dur, beaucoup plus sévère, beaucoup plus régalien, eh bien, nous serons extrêmement vigilants à ce qu'il y ait toujours un équilibre dans notre politique migratoire. La notion de moratoire, vous savez, moi j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'immigration de travail quand j'étais au cabinet de la ministre du Travail, je m'occupais de ce sujet-là. Dire qu'on peut arrêter de faire venir des gens alors même que nos employés, nos employeurs, nos entreprises ont des besoins de recrutement monstrueux et que sur certains métiers, on ne saurait pas faire sans la manœuvre étrangère, c'est absolument illusoire. Donc la notion de moratoire, je pense que c'est une notion... un slogan
idéologique,
je ne sais pas, mais en tout cas, ça relève du slogan. Il faut se mettre autour de la table et voir quelles sont les voies de passage et rentrer dans les détails. Mais encore une fois, sur ce sujet, nous serons vigilants.
C'est un gaulliste. Le gaullisme est traditionnellement pro-arabe depuis toujours. Est-ce que Israël doit s'inquiéter de voir Michel Barnier arriver au gouvernement?
Bon, vous savez, d'abord, les questions de politique étrangère sont le domaine réservé du président de la République.
Donc il y aura une continuité?
Je pense qu'il y aura une continuité. Je ne m'attends pas... je ne connais pas les positions de Michel Barnier sur ce sujet, je ne m'attends pas à ce que la ligne politique et diplomatique de la France change.
Marc Ferracci, merci.
Merci.
Bonne
vous.
Journée.
Merci beaucoup Christophe, on vous retrouve lundi matin à 7h45 pour votre édito.
Radio J, retrouvez le Barbier du matin sur le site radioj.fr, sur la page Facebook de Radio J et sur l'appli Radio J. Radio J.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J.
Hey, tu...
Tu connais Judaïsme en mouvement? C'est là que je fais mon Talmud Torah.
J'en ai entendu parler. C'est quoi déjà?
C'est super! Là-bas, on peut apprendre l'hébreu, l'histoire, la culture juive, en s'amusant avec plein d'autres enfants. Garçons et filles mélangés dès 4 ans.
Sérieux? On pourrait être dans la même classe en plus?
Oui, et les inscriptions, c'est maintenant. Les classes se remplissent vite. Dépêche-toi.
Renseignements et inscriptions.
judaïsme-en-mouvement.org.
judaïsme-en-mouvement.org.
Vous êtes un professionnel de l'immobilier à la recherche d'un réseau qui vous comprend? Meilleurbien.pro est là pour vous. Meilleurbien.pro vous offre un environnement innovant et équitable, conçu pour optimiser vos dépenses tout en maximisant vos profits. Rejoignez un réseau où votre expertise est valorisée avec des outils modernes et un accompagnement sur mesure. Meilleurbien.pro, c'est l'immobilier de demain, accessible dès aujourd'hui. Faites le choix de la performance et du succès. Meilleurbien.pro, la solution digitale pour les professionnels de l'immobilier.
Vous écoutez Radio J.
Radio J.
Vous écoutez Radio J.
Radio J.